Radio Kapi.
Oh, Kapi. Le journal. Patience, Ngalulambombo Banangue à la présentation.
Les titres de ce journal, après élection législative et provinciale organisée hier à Massimanimba, dans l'ex-Bandundu, l'heure est au dépouillement et les bureaux de vote affichent les résultats encore provisoires. Nous irons sur place pour connaître l'ambiance qui y a régné ce lundi matin. Des réactions fusent de partout après la tripartite annulée de Luanda entre les présidents congolais, rwandais et angolais. Dans ce journal, nous suivrons le point de vue du ministre angolais des Affaires étrangères. Il exhorte les partis à prioriser l'intérêt de leur peuple. Les électeurs et les candidats des circonscriptions électorales de Massimanimba dans la province du Kwilu et des Yakoma dans la province du Nord-Ubangi appelés à attendre les résultats des élections dans les calmes. L'appel est lancé par Jean-Baptiste Itipo, directeur des communications de la CENI. Il est notre invité. Bonsoir à toutes et à tous. Les bureaux de vote de la cité et du territoire de Massimanimba affichent depuis des petites heures du matin les résultats encore provisoires obtenus par chacun des candidats ayant participé à ces processus. Des candidats, témoins, observateurs et curieux passent bureau par bureau pour se rendre compte des résultats obtenus par leurs candidats ou adversaires politiques. Notre envoyé spécial Blaise Makassi a fait la ronde des bureaux de vote de Massimanimba. Voici son reportage.
La pluie qui est tombée sur la ville de Massimanimba n'a pas empêché les électeurs de se rendre dans les différents centres de vote où sont affichés depuis ce lundi matin les résultats des votes du dimanche. Même dans les bureaux qui ont clôturé tard, les résultats sont prêts. Des candidats et témoins, partagés entre joie et déception au vu des résultats provisoires, savent à quoi s'attendre. La CENI, elle, dans son calendrier réaménagé des reprises des élections législatives nationales et provinciales, dans les circonscriptions électorales de Massimanimba et Yakoma, avait programmé pour le 23 décembre l'annonce des résultats provisoires. Ces élections, il faut le rappeler, se sont déroulées dans le calme et sans incident majeur. La société civile de Massimanimba regrette quant à elle, à la suite des résultats affichés, le faible taux de participation. Rappelons qu'hier dimanche, certains électeurs disposant des cartes d'électeurs ou des duplicata sont rentrés frustrés parce qu'ils n'ont pas voté. Leur nom n'était pas repris sur les listes électorales. Les élections de décembre 2023 dans les circonscriptions électorales de Massimanimba et Yakoma ont été annulées à la suite des violences et fraudes électorales. Depuis Massimanimba, Blaise Makassi, Radio Kapi.
Toujours en rapport avec les élections de Massimanimba, la mission d'observation électorale Regard Citoyen a noté ce dimanche la présence des observateurs électoraux dans tous les bureaux de vote lors des législatives nationales et provinciales à Massimanimba, dans les Kwilu et Yakoma, dans le nord Ubangi. Cette structure a fait ses constats dans un communiqué dont une copie est parvenue ce lundi à Radio Kapi. Plus de détails avec Blaise Ndongala Mayanda.
La mission d'observation Regard Citoyen affirme avoir déployé une centaine d'observateurs pour les élections reprises dans les territoires de Massimanimba et celui de Yakoma. Et selon les rapports, 38,5% des électeurs se sont vus refuser l'entrée dans les bureaux de vote du fait de l'absence de leur nom sur les listes électorales. Dans ces deux territoires, a fait savoir cette organisation citoyenne, 3,8% des bulletins de vote n'ont pas été systématiquement signés par les présidents et les secrétaires de centre, alors que les noms des électeurs n'ont pas été vérifiés sur les listes avant de leur remettre le bulletin de vote. 78,8% des personnes détenant des cartes d'électeurs lisibles et dont les noms ne figuraient pas sur les listes électorales n'ont pas pu voter. C'est le Regard Citoyen, des électeurs ayant reçu des duplicata et dont les noms ne figuraient pas sur les listes n'ont pas pu également voter, de même ceux qui avaient des cartes d'électeurs illisibles. Cette structure a également révélé que les noms des témoins ont été vérifiés avant de les remettre le bulletin de vote dans 59,6% des cas, alors que 5,8% des bureaux de vote ont connu des interruptions pendant les scrutins à raison des dysfonctionnements des dispositifs électroniques de vote.
Je le disais au sommaire, la tripartite tant attendue entre le président congolais Félix Tshisekedi, rwandais Paul Kagame et angolais João Lourenço, prévue ce dimanche à Luanda pour tenter de résoudre la crise dans l'est de la RDC, a été annulée. En cause, l'incapacité de la RDC et du Rwanda à s'accorder sur un engagement en faveur des pourparlers directs entre Kinshasa et la rébellion du M23, une condition exigée par Kigali mais fermement rejetée par Kinshasa. Dans un communiqué publié ce dimanche, le ministère angolais des Affaires étrangères rapporte que le président João Lourenço, facilitateur désigné par l'Union africaine pour cette crise, s'est dit profondément préoccupé par la situation. Il exhorte les partis à prioriser l'intérêt de leur peuple ainsi que leurs objectifs communs. Martial Papimukeba nous en dit plus.
D'emblée, le communiqué précise que le sommet avait pour objectif d'examiner les rapports d'étape, lesquels mettaient en lumière les principaux résultats obtenus dans le cadre des négociations menées depuis mars 2024 par les ministères des Affaires étrangères de la RDC, du Rwanda et de l'Angola. Il s'agissait également de discuter du projet d'accord de paix présenté en août 2024 par les facilitateurs João Lourenço. Cependant, le communiqué souligne que lors de la réunion ministérielle du 14 décembre 2024, des divergences majeures ont été relevées sur la question du M23, dernier obstacle à l'adoption et à la consolidation de l'accord de paix. Le président João Lourenço exprime son inquiétude face à l'absence de consensus sur ces points cruciaux, regretta que l'une des parties ait demandé le report du sommet à la dernière minute. Les facilitateurs s'alignent néanmoins les avancées majeures sur plusieurs points. Le cessez-le-feu, la neutralisation des FDLR, l'opération du mécanisme de vérification ad hoc et l'approbation du concept d'opération CONOPS. Béni, Martial Papimukeba, Radio Okapi.
Pendant ce temps, la ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kayikwamba Wagner, a salué dimanche la présence du président honoraire kényan, Uhuru Kenyatta, à Luanda, en Angola. Il a exprimé sa satisfaction lors du briefing de presse tenu avec son collègue de la communication et des médias à Kinshasa. Elle a également indiqué que la venue de l'ex-président kényan va faciliter la redynamisation du processus de Nairobi en vue de résoudre la question des groupes armés actifs dans l'est de la RDC. Les propos de Thérèse Kayikwamba recueillis par Blaise Ndongala Mayanda.
Maintenant, le président Uhuru Kenyatta est à nouveau mobilisé et en échange direct avec le président Tshisekedi, mais aussi avec le président Lourenço, parce que la question des groupes armés locaux et des passerelles, si vous voulez, entre le combat armé et la vie civile est de plus en plus importante pour la République démocratique du Congo et que nous voulons mettre l'emphase là-dessus. En même temps, le processus de Nairobi est redynamisé, il est dynamique et il offre justement des perspectives pour les groupes armées actives dans l'est de la République démocratique du Congo. Et il a évidemment un caractère complémentaire, si vous voulez, à certains aspects du processus de Luanda. Et donc nous nous réjouissons aussi du fait que le président Kenyatta était présent à Luanda, parce que ça nous montre aussi que ces deux présidents, le président Lourenço et le président Kenyatta, sont prêts à travailler ensemble pour des solutions durables à la crise en République démocratique du Congo.
Et puis, cette réaction du prix Nobel de la paix 2018, toujours en rapport avec l'échec du sommet tripartite de Luanda. Denis Mukwege déclare que cette impasse des processus de Luanda et de Nairobi remet à la surface l'impérieuse nécessité de redynamiser l'accord cadre d'Addis Abeba, signé en 2013. Jean Kassami résume la réaction du prix Nobel en quelques lignes.
Dans sa déclaration, le prix Nobel de la paix Denis Mukwege mentionne que l'échec du sommet tripartite dans le cadre du processus de Luanda illustre l'impasse politique et diplomatique dans laquelle se trouve ce processus malgré la bonne volonté du président de l'Angola, Lourenço. Cette impasse des processus de Luanda et de Nairobi, poursuit Denis Mukwege, remet à jour l'impératif de redynamiser l'accord cadre d'Addis Abeba pour la paix, la sécurité et la coopération, un accord signé en 2013. Cet accord était le premier visant à s'atteler aux causes profondes du conflit et à mettre fin au cycle de violences récurrents dans l'est de la République démocratique du Congo et dans la région des Grands Lacs africains. Cet accord de paix qui constitue, selon Denis Mukwege, une dernière initiative sérieuse visant à mettre fin aux conflits les plus meurtriers depuis la Deuxième Guerre mondiale, vise à neutraliser et à démobiliser les groupes armés nationaux et étrangers. Les promesses portées par l'accord cadre sont loin d'être réalisées à ce jour. Il nous semble crucial de les remettre à l'agenda international pour enclencher la désescalade face aux tensions régionales et relancer une dynamique de paix dans la région, conclut Denis Mukwege. Bukavu, Jean Kassami, Radio Okapi.
Sur terrain au Nord Kivu, les combats se sont intensifiés ce lundi entre le FRDC et les rebelles du M23 soutenus par les Rwanda dans le sud du territoire de Lubero. Les rebelles ont poursuivi leur offensive contre les positions de l'armée un jour après l'annulation de la tripartite entre les présidents congolais Félix Tshisekedi, rwandais Paul Kagame et angolais João Lourenço qui devait se tenir ce dimanche à Luanda pour tenter de résoudre la crise dans l'est de la RDC. Sur les terrain, la situation reste tendue. Martial Papi Mukeba pour les détails.
Jusqu'à la tombée de la nuit, ce lundi, des violents combats se poursuivaient entre les FRDC et les M23. Aux environs de 11h, les rebelles ont attaqué les positions des FRDC situées à environ 2 km de Matembe. C'est là que l'armée s'était repliée dimanche après avoir abandonné la localité de Matembe, désormais sous occupation rebelle et située à environ 60 km au sud de Lubero Centre. Des violents combats font rage dans la zone et jusqu'à ce lundi soir, il était difficile de déterminer l'évolution des lignes de défense des différentes parties. Toutefois, le colonel Anle Kiwewa, administrateur du territoire de Lubero, rassure que la situation est sous contrôle des FRDC.
À cette population d'avoir confiance à nos forces de défense et de sécurité. Ce n'est plus un problème d'une seule personne ou de l'armée ou seulement de la présidence ou du premier ministre. Non, c'est l'affaire de tout le monde. La situation est maîtrisée. Nous devons avoir confiance à notre armée qui se comporte très 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 bien sur le théâtre des opérations.
Des sources locales évoquent un renforcement en hommes et matériel des rebelles signala un risque élevé d'intensification des combats dans la zone. Béni, Martial Papi Mukeba, Radio Okapi.
L'actualité, c'est aussi la clôture de la session ordinaire de septembre hier dimanche à l'Assemblée nationale, conformément à l'article 117 de la Constitution, avec une production législative tant qualitative que quantitative des textes, des lois et du contrôle parlementaire. Au cours de la cérémonie officielle de clôture, le président de l'Assemblée nationale a félicité les élus nationaux pour le travail exécuté avec sérieux, assiduité et abnégation durant cette session. Vital Kamere les a en outre invités à saisir la quintessence du contrôle parlementaire qui n'est nullement une chasse aux sorcières ou un moyen de déstabilisation du gouvernement. Le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamere, est au micro de Michel Kifindangoy.
C'est ici le lieu de remercier et féliciter tous les honorables collègues députés nationaux qui ont donné le meilleur d'eux-mêmes afin que nous puissions répondre aux attentes de la population conformément aux attributions nous reconnues par l'article 100 de la Constitution, à savoir voter les lois, contrôler les gouvernements, les entreprises, les établissements et services publics, mais également représenter la population dont le bien-être est et restera cœur de notre action parlementaire. Nous encourageons le président de la République à poursuivre ses efforts de la recherche de la paix. C'est dans ce contexte que nous saluons le déplacement ce jour de son Excellence Monsieur le Président de la République à Luanda, répondant à l'invitation de son homologue, son Excellence João Lourenço, Président de la République sœur d'Angola.
Rendons-nous au Kasaï oriental où il y a eu face à face hier dimanche entre quelques producteurs de maïs dans les trois territoires de la province et les potentiels acheteurs. C'était au cours d'un dîner d'affaires organisé à l'hôtel Métropole de Mbujimayi par Dikudilenga ODD en partenariat avec les programmes alimentaires mondiaux PAM et Equity BCDC dans le cadre du projet de promotion de la sécurité alimentaire PROSA. Nous en parlons avec vous Esther Ndalafina.
C'était un cadre d'échange de coordonnées téléphoniques, d'expérience et aussi de marketing pour attirer les potentiels acheteurs de grandes quantités de maïs produits au niveau local. Sélé Kabasela, directeur exécutif adjoint du PROSA, a indiqué que le projet de promotion de la sécurité alimentaire a pour objectif d'améliorer la nutrition et les revenus des bénéficiaires. 186 familles agricoles concernées par ce projet ont déjà reçu de la banque Equity BCDC CDC les crédits agricoles. Selon le représentant du PAM, ces ménages n'ont plus droit à l'erreur.
Nous avons appris les nouvelles techniques culturales, l'utilisation des semences améliorées ainsi que des engrais pour booster la production agricole. Et de ce fait, nous attendons à voir des rendements beaucoup plus importants que d'habitude.
En attendant la récolte de maïs, le projet a prévu l'organisation des activités génératrices de revenus pour les familles agricoles. Explication de Marceline Zeba du territoire de Lupatapata.
Les membres de l'ODD nous ont appris la fabrication des savons et j'en ai produit de bonne qualité. J'ai eu des bénéfices.
Pendant le dîner, les producteurs de maïs ont échangé avec les potentiels acheteurs autour de leur business. Esther Ndalafina Mbujimai, Radio Okapi.
Autre nouvelle, le gouvernement congolais doit passer de l'exploitation artisanale à une véritable industrie minière pour répondre aux besoins sociaux et économiques des entreprises publiques. Ceci est l'une des recommandations des États généraux du portefeuille de l'État qui se sont clôturés samedi 14 décembre dernier. Le participant recommande aussi de prévoir des sanctions dissuasives en cas de détournement et de corruption.
Actualité internationale.
Après avoir ravagé Mayotte samedi 14 décembre, le cyclone Chido a poursuivi sa route dans l'océan Indien où il a successivement frappé l'archipel des Comores et les nord du Mozambique dans la région des Pemba. S'il a aussi causé des dégâts dans ces deux pays, il s'annonce bien moindre que dans le 101e département français. Les dégâts qu'il a occasionnés sur place sont principalement matériels et aucun décès n'y a été enregistré.
L'invité.
Les électeurs et les candidats des circonscriptions électorales de Massimanimba dans la province du Kwilu et des Yakoma dans la province du Nord Oubangui sont appelés à attendre les résultats des élections du dimanche 15 décembre dans les calmes. L'appel est lancé par Jean-Baptiste Itipo, directeur des communications de la Commission électorale nationale indépendante à la clôture des opérations des votes. Jean-Baptiste Itipo est interrogé par Blaise Makassi.
Jean-Baptiste Itipo, bonjour. Les électeurs de Massimanimba et Yakoma ont été convoqués hier dimanche pour élire leurs représentants. Quelle évaluation faites-vous de ces opérations à la fin de cette journée?
Merci pour les questions. Comme annoncé dans les calendriers rendus publics le 2 octobre 2024 par son Excellence le président de la CENI, Denis Kadima, la reprise des élections législatives nationales et provinciales dans les circonscriptions électorales de Massimanimba dans la province du Kwilu et de Yakoma dans la province du Nord Obangui a été effective ce dimanche 15 décembre 2024. En effet, les bureaux de vote ont été ouverts à 6 heures. Donc, avant la fin de la journée, le président de la CENI a fait une évaluation au cours de laquelle il a dit clairement que le processus évolue normalement sans faille. Et donc là, c'est à mettre vraiment à l'actif du management de la CENI.
Quels ont été les principaux problèmes auxquels les différents bureaux de vote, mais aussi le personnel de la CENI ont fait face?
Les problèmes auxquels les différents bureaux de vote et le personnel de la CENI ont fait face, c'est notamment, vous savez, tout début pose parfois problème. À certains endroits, on a rencontré des problèmes mineurs d'ordre technique dû au fait que les collègues qui sont sur terrain et qui ont été formés, parfois n'arrivaient pas à adapter la machine à la date du jour. Ce qui a fait que beaucoup de bureaux de vote ont ouvert à 6 heures, comme je viens de le dire. Mais il y en a 2, 3 ou 4 qui ont ouvert à 6h10, 6h15 ou 6h20. Mais dans tous les cas, tous les bureaux de vote sont opérationnels.
Quelles ont été les spécificités de chacune de ces circonscriptions électorales?
Les spécificités de chacune de ces circonscriptions électorales est due au fait que la circonscription électorale de Massimanimba compte 10 secteurs et deux ou trois communes rurales. Par contre, la circonscription électorale de Yakoma compte 3 secteurs et la commune également rurale. Ici comme ailleurs, la CENI avait procédé par une vaste opération d'affichage et de consultation des listes électorales provisoires, une vaste opération de délivrance et de duplicata jusqu'au niveau des bureaux des secteurs et à l'antenne de la CENI, ce qui a permis à un grand nombre d'électeurs de pouvoir participer au vote ces jours. Mais aussi, il y a la cartographie opérationnelle qui a été actualisée.
Dernière question, Jean-Baptiste Tipo. Quelles sont les prochaines étapes de ce processus et que recommandez-vous aux candidats et à leurs sympathisants?
Les prochaines étapes, c'est l'étape la plus importante que nous attendons tous, c'est la publication des résultats provisoires par le bureau ou l'assemblée plénière de la commission électorale de la CENI qui pourra intervenir incessamment si les choses évoluent très bien au niveau du terrain et que si tous les déploiements s'effectuent au niveau des bureaux de vote. Après la publication des résultats provisoires par l'assemblée plénière de la CENI, va s'ouvrir alors une période de contentieux des résultats devant les juridictions compétentes et après il y aura la publication des résultats définitifs. Voici donc brièvement les étapes prochaines par rapport à ces scrutins. Aux électrices et aux électeurs, ainsi qu'aux candidats, partis et règlements politiques, ils doivent attendre dans le calme la publication des résultats provisoires par l'Assemblée plénière de la CENI. Mais il faut saluer également le fait que les uns et les autres ont fait preuve de comportement citoyen afin de permettre un déroulement harmonieux des scrutins de ces jours à Massimanimba et à Yakoma.
Jean-Baptiste Tipo, merci.
Merci.
Et c'est la fin de cette session d'actualité vespérale sur Radio Kapi. Pele Kipelamondo et Vicky Odiambala l'ont respectivement supervisé et coordonné. Alain Goy a assuré sa mise en onde à la présentation. Patience Ngalula Mbombo. Merci de l'avoir suivi.